Ico DDS, producteur de l'album Deep Green Sound, volume 2, présente
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Comme Joséphine Baker, vous avez deux amours, la chanson et le public. Vous n'en faites pas mystère à la télévision pour le bonheur d'une génération dont vous êtes justement la passion. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Alors c'est vrai qu'on vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel album, il y a Danse avec les stars, il y a les mystères de l'amour, vous n'arrêtez pas. Et merci d'avoir trouvé le temps de venir à Sud Radio, dans ce studio, pour évoquer votre parcours.
Merci à vous de m'avoir invité.
Il y a ce nouvel album, le numéro 4, on en parlera, on n'est pas encore au 5 de Chanel, mais presque. Mais surtout, il y a un parcours étonnant, et le parcours il a commencé le 22 mars 2008, vous en souvenez?
Oh là.
Écoutez
là.
Ceci. Le générique de Chante. Première apparition à la télévision dans un épisode, je crois que c'est l'épisode 13. C'est vrai ?
Ah bah alors là, j'aurais été incapable de dire que c'était le 13, mais évidemment que je me souviens de ce tournage, oui, bien sûr.
C'est une série télévisée française. Curieusement, il y a eu 104 épisodes en France et seulement 26 en Belgique. Ça n'a pas marché. Voilà. En France, ça a bien marché. Comment êtes-vous arrivée dans cette aventure, Elsa Esnoux ?
Oh, c'était un casting, parce que si vous voulez, bon, j'ai passé mon temps quand même à passer des castings en espérant décrocher un rôle. Et puis bah, celui-là, je ne sais plus comment ça s'était passé. Ah oui, parce que j'ai fait une école de cinéma et je crois qu'ils étaient venus chercher dans notre école de cinéma des gens qui étaient dispo le lendemain, etc., pour passer les auditions. Et ça s'est fait comme ça, en fait. On était, je sais plus, on était beaucoup de monde sur ce casting-là. Et puis ils ont dit, bah, tiens, elle nous intéresse pour ce petit rôle. Et puis bon, bah, moi, j'étais contente comme tout, parce que de toute façon, c'est ce que je voulais faire. Hein. Moi, c'est le métier que je voulais faire.
Oui, et puis chante, ça tombe bien parce que la chanson, Elsa Esnoux, c'est votre rêve de petite fille.
Oui, sauf que là, hélas, c'était pas un rôle de chanteuse. Oui. J'avoue que j'aurais trop aimé déjà en avoir un. Mais voilà, mais heureusement, grâce à Jean-Luc Cazoulet, je l'ai eu après.
Oui, ça, on va en reparler longuement. Alors, la chanson, ça a commencé devant votre famille quand vous étiez enfant?
Alors, la chanson, bah, de toute façon, alors, je ne viens pas d'une famille d'artistes.
Non, sauf donc, la grand-mère.
Sauf ma grand-mère qui était comédienne. Alors après, j'ai appris par la suite, effectivement, lorsque j'ai écrit mon livre et que j'ai dû me replonger dans mes souvenirs, ma mère m'a dit que mon grand-père, donc mon grand-père maternel, chantait aussi. Donc il avait cette passion du chant. Maintenant, c'est moi qui chantais toute seule dans ma chambre. Voilà, j'étais dans mon univers, j'étais dans ma bulle. Voilà.
Et puis il y avait les soirées de vacances aussi.
Oui, alors il fallait toujours que je fasse partie du spectacle. Voilà, c'était mon truc. Il fallait que je sois avec les animateurs, animatrices. Ça m'amusait. Voilà, j'aimais ça.
Mais souvent, c'est la meilleure école. Regardez Lagaffe, il a débuté au Club Med. Il ne voulait pas faire d'animation et ça a donné ensuite ses jeux sur TF1. Votre première vocation, pourtant, ce n'était pas la chanson, Elsa Esnoux, c'était le dessin.
Alors, si, parce qu'on va dire que quoi qu'il arrive, depuis que je suis née, de toute façon, je chante. J'ai commencé avec des chansons de petites filles, comme on apprend déjà à l'école. Ensuite, c'est dans les dessins animés, tout ça. Donc, de toute façon, je sais que j'ai toujours chanté. Après, le dessin, ce qui est différent aussi, c'est que comme, bon, bah, moi, je détestais l'école. Enfin, j'aimais pas ça.
Ça peut arriver à tout le monde.
Voilà, ouais. J'aimais pas ça. Ben, moi, en fait, je me renfermais, je m'exprimais au travers de mes dessins. Beaucoup. Excusez-moi parce que vous devez l'entendre. Je suis très enrhumée et alors, pardon d'avance si je tousse de temps en temps. Excusez-moi.
C'est pas grave, on vous écoute avec passion. Et alors, votre personnage que vous aviez inventé s'appelait Avatar. Peut-être par rapport au film de James Cameron, non ?
Alors ça, c'était dans une chanson, parce que j'avais écrit une chanson où je parlais en gros d'un amour entre un être humain et un extraterrestre. Mais voilà, mais c'était, si vous voulez, c'était pas le seul personnage que j'ai inventé. Hein. Je passais mon temps à en inventer.
Mais Avatar, c'est important parce que ce film culte, curieusement, il devait être tourné en quelques années et sortir en 1999. Il est sorti 10 ans plus tard parce que James Cameron, après Titanic, voulait vraiment des procédés technologiques aboutis. Et il a attendu tout ça.
On
alors,
a bien fait.
Les avatars, super. Justement, à l'école, vous en avez eu, vous n'étiez pas bon élève. Vous avez été rejeté, je crois, par vos camarades de classe.
Ça allait, je n'étais pas...
Non, mais c'était vos camarades de classe, surtout, qui vous rejetaient.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais pas... Alors, c'est pas forcément que j'étais bonne ou mauvaise élève, enfin, c'est juste que j'aimais vraiment pas ça. C'est-à-dire que en revanche, si, c'est-à-dire que je travaillais toujours pour ne pas avoir à redoubler. Donc, j'arrivais
juste
à avoir...
Juste la moyenne, ouais.
Bah, c'est ça, c'est-à-dire que j'arrivais à avoir, on va dire, mes bonnes notes, mes notes qui me permettaient juste de passer à la classe supérieure pour ne pas avoir me retaper une année. Tellement je détestais ça, en fait.
Oui, mais vous voilà. Avez quand même ensuite fait la fac, le bac, enfin, tout y est passé.
Ah oui, par contre, oui, j'étais, on va dire, forcée de faire mes études pour faire plaisir à mes parents, jusqu'au jour où mon père m'a enfin laissé faire ce que je voulais faire, vraiment.
Pour vous, le bac, c'était le billet pour la liberté.
C'est ça, exactement. Le billet pour la liberté.
Et donc, vous avez pris des cours de théâtre, et finalement, les cours de théâtre, au-delà du métier, ça vous a appris à chasser vos peurs, Elsa Esnou?
Alors, les peurs, j'en ai toujours. Bien sûr, ça n'aura pas tout chassé, mais ça m'a aidé en tout cas déjà à voir qu'on pouvait se retrouver dans des situations un petit peu compliquées publiquement. Parce que lorsque vous avez plusieurs élèves autour de vous qui vous regardent et puis vous êtes obligé de vous mettre à nu parce qu'on vous fait ressortir beaucoup d'émotions qui sont ancrées en vous. Parce que c'est ça le principe du théâtre, c'est vous faire ressortir toutes les émotions que vous avez pour justement que vous en deveniez plus fort. Parce que le fait, quelque part, de se mettre à nu, de pleurer devant les autres, quand vous n'avez pas l'habitude de le faire et qu'en général vous vous cachez pour ça, je vous assure que ça vous fait un peu grandir aussi. Et ça exorcise des choses, c'est vrai.
Et des émotions, vous en avez connu aussi, Elsa Esnou, au Québec. Vous avez passé plusieurs mois et ça a été des mois de travail et de découverte d'un pays.
C'est vrai, totalement. J'ai beaucoup aimé Montréal. Je vivais en colocation avec des amis qui venaient également de Paris, comme moi, de France. Mais j'ai eu du coup une bonne expérience qui m'a permis de grandir.
Oui, et peut-être d'apprendre à travailler comme une Française, mais à l'américaine.
Oh oui, peut-être. En fait, je ne sais pas vraiment. Disons que j'y suis allée. Moi, j'ai voulu continuer de pratiquer mon anglais, donc j'avais fait une école d'anglais là-bas aussi. Je voulais pas y aller et ne rien faire. De toute façon, je suis une fille, j'ai toujours besoin de faire des choses.
Exactement.
Sinon, je m'ennuie, mais voilà. Mais c'est vrai qu'une belle expérience.
Et vous, au Canada, vous avez découvert la poutine. Le plat local.
Ces fameuses frites avec la sauce et le cheddar et tout. Ouais, ouais.
et la poutine, en fait, ça vient. Il y a deux origines. On pense que ça vient de pudding, comme anglais, mais aussi poutine, qui signifie en québécois mettre du fromage et de la sauce brune dans les frites.
Voilà. C'est ça.
Ça, c'est un bon souvenir, la poutine.
Oui, oui. Bon, après, c'est sûr que j'en mangerai pas tous les jours, parce qu'au bout d'un moment, ça pourrait en devenir récurrent. Mais sinon, non, en fait, et puis ce que j'ai adoré là-bas, c'est la bonne mentalité aussi, la sécurité aussi. Vous pouvez marcher tranquillement dans les rues. Parce que vous savez, là-bas, c'est une ville très étudiante. Je vous assure, vous allez jusqu'au soir à minuit, vous baladez dans les rues. Vous avez plein de petits bars sympas ouverts, que des jeunes. Je trouve qu'il n'y a pas de... Vous ne vous sentez pas en danger ou du genre, ah, fais attention, fais gaffe, peut-être une fille à cette heure-ci, toute seule dans la rue. Voilà. Non, c'est très sympa. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé.
Eh bien, nous, on aime beaucoup votre présence à Sud Radio. On va continuer à en parler dans quelques instants à travers une autre date, le 4 novembre 2014. À tout de suite sur Sud Radio avec Elsa Esnou.
Echo DDS, producteur de l'album Deep Green Sound, volume 2, présente...
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Elsa Esnou. Entre deux tournages des Mystères de l'amour, entre deux Danses avec les stars, il y a aussi le livre Le rêve d'une vie, il y a cet album 4 qui est sorti, une tournée, bref, vous n'arrêtez pas. Et il y a une date importante pour vous, c'est le 4 novembre 2014, vous ne l'avez pas oublié. C'est une soirée à Paris, un premier concert au Divan du Monde.
Ah oui, ah, ça c'est sûr, c'était la première scène de ma vie. Voilà, ça a été, un showcase, on appelait ça un showcase,
en
parce
bon
que
français,
j'avais 11
oui.
chansons, et donc c'était la première fois que je me produisais sur scène, donc effectivement Divan du Monde à Paris, et puis il y avait déjà une salle pleine, et ça a été extraordinaire lorsque j'ai vu tous ces gens chanter mes chansons, enfin chanter les chansons. Bon, moi sur ce premier album j'en avais fait que deux, mais c'était déjà énorme pour moi. Et de voir que les gens connaissaient déjà toutes les chansons par cœur, c'était de la folie.
Mais qu'est-ce qu'on ressent justement quand la peur, en même temps l'émotion, la surprise ?
Ah oui, alors comme je suis une fille très émotive, si vous voulez, moi j'ai des larmes facilement lorsque je suis envahie d'une émotion qui me touche. Là, j'avoue que c'était pour moi, là, j'étais en train de me dire, ça y est Elsa, ton rêve se réalise, ça y est, ça se concrétise, ça y est.
Alors, le Divan du Monde, jadis, ça s'appelait le Divan japonais, parce qu'il y avait des corps japonais. Et il y a une chanteuse très célèbre, mais très lointaine, qui est Yvette Guilbert, qui a chanté le fiacre, Madame Arthur, qui a débuté au Divan japonais, ça lui a porté bonheur.
Génial.
Et cette dame avait une particularité, elle avait des gants noirs, alors que tout le monde avait des gants blancs à l'époque, pour une raison, elle n'avait pas d'argent, et les gants noirs, ça salissait moins que les gants blancs.
Oh, d'accord.
Et Aznavour a repris le principe avec une chemise noire quand il n'avait pas d'argent. Alors, ça, la chanson, ça a débuté aussi dans les coulisses. Vous avez été était hôtesse d'accueil dans et vestiaire dans une discothèque.
Oui, enfin, si vous voulez, enfin. Quand vous faites vos études, bon bah moi c'est sûr que je devais enchaîner les petits boulots à côté, bah ça me permettait de financer mes études, financer mon école de cinéma et tout, bien que j'avais quand même mes parents qui m'aidaient pour ça bien sûr, mais c'est vrai que moi ce que je ne voulais pas justement c'était de dépendre de mes parents, et surtout par respect pour eux, ils avaient toujours payé pour que j'aie les meilleures études qui soient, je voulais leur montrer que je pouvais me prendre en charge aussi, et donc j'avais besoin du coup donc moi d'accumuler des jobs différents pour donc les payer, et donc je me suis retrouvée à être hôtesse, mais si vous voulez la nuit, dans des soirées, des trucs d'événements en fait, c'était des événements en fait, oui c'est ça, hôtesse.
C'est comme ça aussi qu'on apprend son métier en observant les autres,
bien sûr. Qu'est-ce que j'ai dégusté avec les talons hauts?
Ah oui, parce qu'il faut avoir des talons et puis sourire tout le temps.
C'est ça, c'est toujours bien habillé, talons hauts, sourire. Mais c'est vrai que ça faisait mal aux pieds.
Alors, vous avez aussi failli vous envoler, car vous avez failli devenir hôtesse de l'air.
Tout à fait. C'était vraiment, j'avais choisi, on va dire, un métier qui m'effrayait. C'était le métier qui m'effrayait le moins, si je devais dire, un métier à choisir raisonnable. Parce qu'effectivement, le métier artistique, ça rassure pas vraiment des parents, hein, parce qu'ils se disent, oh là là, mais comment tu vas faire? C'est tellement incertain. Donc du coup, on va dire, dans la limite du raisonnable, je m'étais dit, c'était la seule chose qui pouvait me correspondre, parce que comme je suis tellement un peu tête dans les nuages, je me suis dit voilà. Mais honnêtement, je me connaissais et je savais très bien que ça m'aurait plu 2 mois, mais après je me serais lassée, moi, parce que moi de toute façon ma seule et unique passion c'était le côté artistique, donc voilà.
Et il y a une chanson qui a tout changé, Elsa Esnou. Alors, Christina Aguilera, c'est la chanson de votre audition. C'est vrai?
Bah ouais, voilà, ça m'émeut parce que cette chanson, elle était très importante pour moi. C'était une chanson que, à chaque fois, oui, c'est vrai que je me renfermais dans ma bulle quand je l'écoutais. Elle me touchait beaucoup, cette chanson, en fait. Et je me disais, s'il y a une chanson que j'avais envie de chanter devant des gens, effectivement, c'était celle-là. Et comme vous dites, ouais, elle a changé ma vie parce que c'est grâce à celle-là qu'on a entendu ma voix et que, du coup, on m'a donné ma chance.
Oui, et celle qui vous a donné votre chance, elle nous manque aujourd'hui.
C'est Ariane Carletti,
qui ouais. nous manque, à qui on pense.
Exactement, j'y pense tous les jours et c'est une personne que j'oublierai jamais et que je remercierai toujours dans mon cœur. Voilà.
Et parmi ses qualités, elle était la meilleure sorcière des aventures de Dorothée. Pendant des années, elle faisait le cri de la sorcière comme personne. Et elle avait aussi une mère extraordinaire qu'il ne faut pas oublier, Louise Carletti, qui a été une grande actrice des années 50 dans les films de Raoul André, notamment. Et on pense à elle et bien sûr, elle reste dans nos cœurs. Et puis ensuite, grâce à cette rencontre avec Ariane, il s'est passé quelque chose et un feuilleton. Quelques jours après, vous voilà dans les mystères de l'amour, Elsa Esnou. Comment ça s'est passé?
C'est drôle, c'est étonnant que j'ai... Pardon, j'ai les larmes faciles, dis donc. C'est parce que ça m'émeut, en fait. Je suis tellement... Ah là là, bon. Non, mais c'est mignon. Vous avez vachement bien fait votre... Votre parcours, là, c'est super. Alors, pardon, du coup,
excusez-moi. Oui, les mystères de l'amour, justement. Oui. Comment c'est arrivé?
Alors, comment c'est arrivé? Donc, le casting, j'ai passé donc l'audition avec Ariane, et qui a dit à Jean-Luc Cazoulet, il faut que tu vois absolument cette fille. Et comme j'avais chanté, ils m'ont rappelé, la production m'a rappelé pour quelques jours après, en me disant que j'avais été prise pour le rôle de Fanny et pas celui pour lequel j'étais venue auditionner à la base, qui était un autre rôle au cours de la saison 2.
Voilà. Jean-Luc Cazoulet a cru en vous en entendant votre voix.
Exactement. Et il m'a dit, et après il m'a confié par la suite, que ça faisait déjà quelques temps qu'il aurait aimé refaire un personnage qui chante vraiment, et il n'avait pas trouvé la personne, et qu'en moi il l'a trouvé. Donc ça a été super, parce qu'il m'avait parlé de coup de cœur artistique.
C'est ça, exactement. Jean-Luc Cazoulet a trouvé Dorothée, quand personne n'y croyait, Hélène Rollès, et puis il y a une chanteuse qui a échappé à sa production, c'est Vanessa Paradis. Je ne sais pas si vous la racontez.
Si, on en avait
parce qu'à 8 ans, elle est venue passer une audition. Et je crois que sa mère était épouvantable et que Jean-Luc n'a pas voulu produire Vanessa Paradis qui a réussi beaucoup plus tard. Alors, les mystères de l'amour, ça vous a aussi obligé à apprendre un métier. Il y avait 22 séquences par jour,
oui.
Elsa.
Bien sûr, oui, c'était ça, c'est sûr que c'était pas de tout repos, mais en revanche c'est génial parce que c'est la meilleure école. Si vous voulez, lorsque vous commencez à tourner avec une équipe où effectivement bah, c'est comme ça, c'est à la chaîne, on bosse, on n'a pas le temps que ce soit pas bon, enfin faut être bon tout de suite en fait, parce qu'il n'y a pas le temps justement trop de se louper. Bah, je peux vous dire qu'après, si on vous propose de tourner une seule séquence dans la journée, bah vous êtes prêt.
Il n'y a pas de souci. Et surtout votre personnage a évolué, ce qui est assez rare dans les séries de Jean-Luc Azoulay, c'est-à-dire que vous avez petit à petit créer votre personnage, vous l'avez aidé à le développer.
Exactement, parce que...
Comment vous avez fait important. Parce que convaincre Jean-Luc, c'est pas simple.
Alors, si vous voulez, moi, donc, j'avais la musique. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a fait en sorte que mon personnage chante, j'ai commencé à chanter des petites... des chansons comme ça de quelques secondes pour les biens de la série, etc. Et c'est vrai que mon personnage était un petit peu peste au départ, sauf que bah, Fanny s'est retrouvée à chanter quand même des chansons d'amour. Et je lui dis, mais Jean-Luc, ça, c'est pas cohérent. Je peux pas être un personnage qui est un peu agressif et à la fois qui va chanter de l'amour. Donc, et comme il avait aussi appris à me connaître au fur et à mesure du temps, et il voyait que j'étais une fille bah, finalement très romantique, très tout ça, bah, finalement, donc peut-être pas l'image qu'il aurait pu penser dès le départ, et ben, il a même pas hésité une seconde, il l'a fait de lui-même. Et elle a évolué comme ça, Fanny, à mon plus grand bonheur.
Ouais. Et la chanson, ça a commencé par une chanson gag qu'il a écrite avec Gérard Salès, son compositeur favori depuis toujours. Cette chanson gag est devenue un succès à la surprise générale.
Pour qui tu me prends ? Je suis pas une imbécile, une petite poupée débile. Comprends qu'on enlace, on lui change les pieds.
Alors c'est le genre de chanson que Jean-Luc Azoulay est capable d'écrire sur un coin de table en 3 minutes.
Oh oui,
et ça mais
il écrit
rire.
Tout en 3 minutes, il est incroyable.
Allongé sur le ventre en général.
C'est ça.
Et donc, cette chanson est devenue un succès parce que vous l'avez fredonné en la sortant, oui, en sortant de chez lui.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, je lui ai dit non, mais je ne chanterai pas cette chanson. Non, 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 c'est mort, c'est mort. Il m'a dit, ah déjà, ça, c'est bon signe, parce qu'en général, moi, mes chanteuses, quand elles ne veulent pas chanter une chanson, ça veut dire qu'elle aura un succès. Et après, ce qui s'est passé, du coup, on peut dire que c'était de ma faute. C'est un jour, on allait manger avec Gérard Salès. Et dans l'ascenseur, j'ai eu cette musique qui est revenue et je la chante comme ça. Mais j'avais oublié que c'était. Et là, il me fait, ça y est, prise en flag, on va la faire. Et là, tu pourras pas l'éviter. Et après, j'ai pris du plaisir à la chanter quand j'ai vu en plus que le public avait adoré et les enfants aussi qui bougeaient dessus, mais comme pas possible. Et ce qui est très drôle, c'est que cette chanson qui s'appelle « Pour qui tu me prends », tout le monde l'appelle la chanson des carottes. Non mais
pourquoi?
C'est drôle, parce que dedans, je chante « Tes jolies petites carottes pour me faire carotter ». Et c'est ce mot qui est resté, c'est incroyable. Et personne ne me dit « Pour qui tu me prends ?» Ils me disent « Toute la chanson des carottes, c'est incroyable !» Mais bon, voilà, et si vous voulez, par contre, en concert, ce genre de chansons, elles sont extra, parce que ça bouge en fait. Donc non, voilà.
Et c'est grâce à cette carotte que vous êtes devenue une grosse légume, finalement, Elsa Esnou. Il y a eu ensuite un autre album à Nashville, et à Nashville, ça a été un grand moment, parce que c'est quand même la ville où Elvis Presley a enregistré plus de 200 chansons.
Ah oui, oh là là, Elvis Presley, puis moi qui suis fan de Taylor Swift, elle aussi, donc si vous voulez, puis Johnny, et même Dorothée, même Hélène y est allée, donc si vous voulez, moi, lorsqu'il m'a annoncé, Elsa, ça y est, c'est bon, on va aller aux États-Unis, on va aller à Nashville... En fait, je ne l'ai pas cru, je ne l'ai pas pris au sérieux. Je lui ai dit, mais n'importe quoi, arrête de me charrier et tout. Il m'a dit, si. Donc là, pour moi, qui aime déjà la musique, les États-Unis, et toute ma vie, je faisais des covers en anglais. Il me dit, allez aux États-Unis. Je fais, OK, bon. Donc, on y est allé. Ça a été un rêve extraordinaire. J'ai rencontré les plus grands musiciens qui soient. En plus, j'ai une expérience de studio qui n'était pas la même que celle en France. Parce qu'en fait, si vous voulez, comme on a construit... Alors, il faut savoir quand même que je suis arrivée avec mes maquettes. Sur lesquels on avait préalablement travaillé avec Gérard Salès et Jean-Pierre Soulagny à Toulouse, entre Paris et Toulouse, si vous voulez. Donc on est arrivé quand même avec nos musiques, mais là-bas, ils ont rajouté leurs pattes. Donc ça, c'est important de le dire, voilà. Et donc moi, je me retrouvais à chanter en même temps que juste à côté, donc c'est comme un peu des aquariums, ils sont à côté, et ils jouent de la musique en même temps, ils construisent en même temps. Moi, je dis, tiens, on rajoute ci, ça, là, à tel moment, les gars, faudrait s'arrêter là pour qu'il y ait une petite pause. Et donc c'est génial, on est en communion, c'est super. Non, c'était une expérience géniale, de folie.
Et vous avez cru en une chanson qui est devenue un succès, Elsa Esnou.
Une histoire commençait.
S'aimer, là aussi, c'est une chanson que vous avez voulu.
Ouais, je me suis battue pour cette chanson parce que au départ, Jean-Luc Azoulay m'avait dit, mais Elsa, mais qu'est-ce que tu veux faire avec cette chanson ? Vaut mieux écrire des chansons beaucoup plus gaies, plus sympas, les gens n'aiment que les histoires d'amour positives, là c'est quand même assez sombre et tout. Je lui ai dit, non Jean-Luc, je te jure, fais-moi confiance, cette chanson, elle parlera à beaucoup de monde. il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens, mais que ce soit au niveau de la religion, de la culture, du sexe, de tout, qui encore ne peuvent pas vivre leur histoire parce que ça ne correspond pas aux mentalités de leur famille ou tout simplement ils sont jugés par les autres. Et moi, du coup, j'avais envie de me faire porte-parole pour tous ces gens qui sont encore malheureux aujourd'hui. Et voilà, c'était important pour moi d'écrire cette chanson-là. Et que l'amour est plus fort que tout et que si on s'aime, normalement, quelque part, on s'en fout de ce que pensent les autres. Il faut vivre ce qu'on a à vivre, c'est
oui,
tout.
Et on se fout d'ailleurs ce que pensent les médias parce que curieusement, à l'inverse de beaucoup d'autres, ça a surpris beaucoup de gens. Vous avez réussi sans les médias, Elsa Esnou. C'est une performance aujourd'hui.
C'est exceptionnel, c'est grâce à l'amour du public, grâce à leur fidélité, et je leur serai éternellement reconnaissante pour ça. Grâce à eux, je fais des albums, et c'est extraordinaire.
Eh bien justement, il y a un nouvel album, on va en parler dans quelques instants, à travers une autre date, le 23 août 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Elsa Esnou.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Elsa Esnou, 23 août 2019, sortie de 4, un album qui précédera le 5, je suis sûr, un album enregistré entre Paris, Toulouse et Nashville, le nouvel album encore avec des nouvelles chansons, et cette fois-ci il y a une particularité, c'est qu'à l'heure de la parité, vous avez écrit la majorité des chansons, Elsa
Esnou. Oui, c'est vrai. Ça, j'ai une chance énorme, c'est qu'on me laisse apporter mes propres compositions.
C'est-à-dire qu'il y a 8 des 15 chansons qui sont de vous.
Oui, ça c'est rare.
Ça a toujours été une passion pour vous d'écrire des chansons ?
Alors en fait, j'avais toujours un peu peut-être écrit pour moi, mais jamais j'aurais cru qu'un jour on me laisserait les sortir, ces chansons. Et en fait, c'est grâce à Jean-Luc Azoulay, lors du premier album, qui a senti, on va dire, une certaine patte et qui m'a poussée à le faire. Et moi, je lui dis, attends, t'es sûre, peut-être je suis pas capable. Si, fais-le, je le sens. Et du coup, il avait validé mes deux premières chansons. Du coup, sur le deuxième album, j'en avais fait, je crois, 9. Sur le troisième, j'en ai fait 7, je sais plus, 6 ou 7. Et là, j'en ai...
8.
Pareil, voilà, 8. C'est incroyable. Et ça, c'est... Voilà. Et mais après, il m'a dit, Jean-Luc, aussi, mais tu sais, Elsa, moi, si je te laisse faire tes propres chansons, c'est parce que j'y crois et que je les aime bien. Et je les aime, voilà.
Donc, c'est l'une d'entre elles, la réponse est oui. Est-ce que tu m'entends ?
Est-ce que...
C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup ces chansons à la radio. Heureusement qu'il y a Sud Radio.
C'est génial, je vous remercie.
Et c'est vrai que le public, lui, entend.
Oui.
Mais ce qui me fascine, c'est que vous avez réussi à enregistrer ces chansons entre deux tournages, entre deux voyages. C'est-à-dire vous dormez très peu.
C'est vrai, mais parce que je me dis aussi que bon, plus tard, bon, on a le temps de dormir. Mais oui. Là, je profite tant qu'on me laisse la chance de le faire.
Et vous faites des cauchemars, et un cauchemar particulier, vous perdez vos dents.
Ah oui, c'est vrai que j'ai confié ça, ouais, c'est vrai. Non, alors ça peut effrayer des gens, mais ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que comme j'ai un sommeil un peu léger, et puis je suis tellement, moi, à refaire le monde avant de m'endormir, je suis un peu, moi je suis une angoissée, donc si vous voulez, bon, ça doit se répercuter un peu dans mes rêves. Maintenant, c'est vrai que... Lorsqu'on m'a appris qu'il y avait des rêves qui pouvaient être donc prémonitoires, et souvent c'est ce qui se passait en fait.
Alors, voilà. Et cette anecdote, je l'ai trouvée dans un
livre. Enfin, pas que ce qui se passait, que ouais. Je perdais mes dents. Hein.
Non, non, non.
Mais il y a une signification qu'on dit qu'en général, c'est que quelqu'un disparaît quelques jours après. Et là, souvent j'apprenais parfois la disparition de quelqu'un. Et c'est incroyable.
Et alors, il y a des choses incroyables dans ce livre, Le rêve d'une vie, qui est sorti chez Harper & Collins avant les vacances, où vous vous racontez pour la première fois. Je le recommande et je crois que vos fans l'ont déjà acheté par milliers. Alors, il y a une autre chanson parmi les 15 de cet album qui est assez étonnante, c'est Androgyne.
Androgyne, Androgyne, tu m'étonnes, tu me fascines. Avec ton allure féline, moulée dans ton petit jean. Androgyne.
Alors là, androgyne, c'est un mélange d'Elsa Esnou, du style Azoulay et un peu de Mylène Farmer.
Complètement. En fait, moi, franchement, pour le coup, c'est exactement ce que je voulais. Lorsque Jean-Luc, au départ, parce qu'en fait, on parlait de ce sujet-là, et tout d'un coup, il a fait « Attends, tiens, j'ai une idée ». Il s'est mis au piano avec Gérard, il a commencé à faire au piano. Et moi, je lui ai dit « Écoute, cette chanson, je la sens hyper bien, mais par contre, c'est mort, on ne la fait pas en version classique, etc. Celle-là, il la faut électro ». Mais obligatoire. Et je lui ai dit, et justement, et j'aimerais que ça fasse donc électro, un peu à la style Mylène Farmer, parce que j'adorais aussi Mylène Farmer. Et du coup, on est parti sur cette couleur musicale comme ça. Et ça a donné ça. Et je suis très, très, très contente du résultat parce que du coup, on a fini de la. Celle-là, on l'a peaufinée. On l'a terminée aux États-Unis avec justement. Aux États-Unis.
Avec Gérard Salès et Jean-François Pori. D'ailleurs, Jean-Luc Cazoulet, son pseudonyme, c'est Jean-François Pori. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il voulait s'appeler Pourri
c'est
au
ça,
départ.
C'est ça, il me l'a raconté.
Il a eu une erreur à la SACEM.
Mais même, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu avais dans la tête pour vouloir t'appeler Pourri ?
Oh, bon, enfin, ça, c'est normal. C'est ça, c'est quand pas même. Grave.
Et c'est la fille qui, lorsqu'elle a, elle a enregistré dans les fichiers, qui s'est dit, mais ça peut pas être Pourri. Du coup, elle a enlevé le U et ça fait Pourri.
Voilà. Alors, l'album va sortir aux États-Unis, cet album 4, Elsa et Snow.
Alors, oui, c'est fantastique parce que j'ai fait un featuring avec The Matt Stuttman. Il était connu pour avoir fait I Like to Move It, Move It.
Oui.
Donc, le fameux tube. Et du coup, comme on a fait cette collab en janvier, normalement, ça devrait sortir donc aux États-Unis. Voilà.
Un
et donc, c'est extraordinaire. Mon album qui sort aux États-Unis, je ne réalise même pas.
C'est presque voilà. Du cinéma. Et le cinéma, c'est un de vos rêves aussi.
Bah forcément parce que c'est histoire de enfin ça, oui parce que si vous voulez c'est travailler d'une autre manière et comme en plus je suis très curieuse et je vous dis j'adore jouer la comédie ce serait déjà voir comment ça se passe aussi au cinéma maintenant je suis hyper heureuse sur ma série tout va très bien
oui.
mais c'est vrai que moi vous savez si on peut toucher à tout c'est génial
ben oui et Jean-Luc Cazoulet pourrait vous écrire un film tiré des mystères de
c'est
l'amour
c'est pas son truc les films
ouais.
C'est pas son truc je lui en avais parlé une fois il me dit non Elsa tu sais moi c'est la télé c'est les séries je m'éclate là-dessus et il a raison tant s'éclater hein. Si c'est pas son truc de faire du cinéma moi je respecte totalement.
Il y a quelque chose qui vous éclate aussi, ce sont les films d'animation, Le Roi Lion en particulier.
Ah, alors ça, moi, les Disney, je suis là, mais fan comme pas possible.
Et Le Roi Lion, au départ, ça devait s'appeler Le Roi de la Jungle, sauf que les scénaristes ont réalisé presque trop tard que le lion vit dans la savane et pas dans la jungle. C'est pas Tarzan. Et ils ont changé le titre. C'est étonnant. Alors, vous n'êtes pas un roi, mais une reine de la chanson. Et je pense que cette chanson va toucher aussi beaucoup les cœurs. Histoire d'amour, encore une fois, histoire d'amour tendre. Et l'amour, justement, dans les mystères de l'amour, ce qui a fait beaucoup parler, c'est votre mariage, la demande en mariage avec Cri-Cri d'amour, avec Sébastien Roch.
C'est ça. Alors là, si vous voulez, c'est un couple qui a su toucher le public au fur et à mesure des saisons. Notre plus grand bonheur à Sébastien Roch et à moi-même, parce que nous sommes très attachés à nos personnages.
Oui.
Et lorsqu'on voyait tous ces mouvements sur les réseaux sociaux, bah déjà on avait gagné une fois un trophée du meilleur couple de l'année. Donc déjà dans ce sens, les gens avaient voté pour nous, donc aimaient ce qu'on représentait à la télé. Et donc on avait déjà tout le soutien du public. Et en plus, sur les réseaux sociaux, à chaque fois, ils disaient « Mais quand est-ce qu'ils vont se marier les deux ? Quand est-ce qu'ils vont se marier ?» Et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on puisse leur faire plaisir aussi au public.
Oui, ça fait.
Mais c'est important.
Et la demande en mariage, vous ne l'avez pas répétée ?
Ah, la demande. Alors, la demande quand c'est au studio d'enregistrement. Alors, je ne l'avais pas répétée, c'est vrai. Alors, c'est vrai que j'avais lu le scénario, bien sûr. Je ne peux pas arriver sans... Voilà. En revanche, je ne voulais pas la prendre tout de suite par cœur. Je ne voulais pas trop m'entraîner dessus parce que je voulais que ce soit tout simplement le plus sincère possible et c'est vrai que comme je dis toujours aussi, moi les larmes qu'on voit à la télé on me met pas de l'ail dans les yeux ou des gouttes, vous savez, qui piquent et qui font que... ce sont des vraies larmes parce que j'essaye toujours de ressentir pour de vrai et en fait pour le coup, donc c'est... En fait j'étais tellement touchée pour mon personnage je me suis mise dans sa peau à ce moment précis. Je me suis dit que moi aussi, j'aurais aimé qu'on me le fasse. J'aimerais qu'on me le fasse comme ça. Enfin, en tout cas, c'était tellement beau. Ça a été tellement bien écrit, si vous voulez, que j'étais... Ça m'a désarmée, en fait. Voilà.
Ça vous a transporté.
Voilà. Là, les barrières sont tombées. je trouvais ça... C'était si beau parce que Sébastien Roch, donc Christian dans l'histoire... fait sa demande en mariage sur une chanson qui était la chanson « Tu m'as donné ». Donc déjà, cette chanson qui est quand même très touchante de base, parce que je trouve que le public aime beaucoup cette chanson. Et il transforme les paroles en disant « Est-ce que tu veux m'épouser ?» au lieu de « Tu m'as donné ?» Voilà, « Est-ce que tu veux m'épouser ?» Et oh, c'était si joli. J'ai trouvé ça si joli. Voilà.
Et l'amour, vous le chantez encore dans cet album 4 avec « Pour t'aimer, je serai là ». « Et le public vous aime, et le public vous aime encore plus.
Mais je l'aime aussi.
Et alors surtout, il vous découvre autrement, avec ce rêve de toujours, autre rêve, Danse avec les stars.
Oh là là, sacré des challenges.
Ça c'est un défi. Ça.
Oh là là, c'est un défi énorme. Au départ, lorsque l'émission donc, a contacté ma production pour dire qu'ils étaient intéressés par mon profil, etc., pour passer les auditions, moi, ma réaction première, donc moi qui ai parlé à ma prod, donc je ne parlais pas à l'émission, moi je leur ai dit comme ça, donc on va dire en off, je disais mais vous êtes fous, mais je ne pourrais jamais faire ça, mais j'en suis pas capable. Ils m'ont dit mais Elsa, c'est la chance de ta vie en fait, toi qui as toujours voulu danser, toi qui aimes cette émission, c'est la chance de ta vie. Et là, et c'est vrai qu'il y a ils n'ont pas dû me convaincre très longtemps. En quelques secondes, j'ai dit, vous avez raison, c'est la chance de ma vie, c'est fantastique. Et du coup, j'ai passé les auditions. Mais j'y croyais pas, je pensais pas qu'on allait me prendre. Et lorsqu'après, ils ont dit, c'est bon, on la prend. Oh, mais qu'est-ce que j'étais heureuse. Alors à la fois un stress, mais énorme, énorme, je vous raconte pas. Alors qu'est-ce que j'étais heureuse. Oh là là, je remercie encore TF1 de m'avoir prise. Merci.
En tout cas, on vous remercie. Et cet album s'appelle le 4. Et il y a encore une chanson qui correspond à ce que vous êtes, c'est Le Droit de Rêver.
J'ai juste envie de pouvoir chanter.
Vous avez rêvé votre vie, vous vivez votre rêve.
Exactement. Mon livre porte très très bien son titre, c'est Le Rêve d'une Vie. Je vis vraiment mon rêve.
Et ça va continuer, il y a une tournée prévue en 2020.
Oui.
Et des mystères de l'amour qui continuent.
Qui continuent, j'espère le plus longtemps possible. Mais ça, c'est grâce à l'amour du public et pour tout. C'est-à-dire que le public, moi, il me soutient dans mes musiques, il nous soutient dans notre série. Le public est présent, on les aime. On a envie de leur donner du bonheur chaque week-end. Moi, j'ai envie de leur donner du bonheur aussi au travers de mes chansons.
Ben nous avons été à la noce grâce à vous, Elsa Esnou. Il y a donc cet album 4, il y a la tournée, il y a Le Rêve d'une Vie chez Harper & Collins, et il y a ces mystères de l'amour qui continueront le plus longtemps possible. Et vous serez toujours la bienvenue sur Sud Radio pour en parler.
C'est très gentil. Merci infiniment.
Merci à vous. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaie et nous, on se retrouve demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.
Avec Echo de DS, producteur de l'album Deep Green Sound, volume 2.